Et oui, du miroir à l'autoportrait ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du diable, de politique agricole commune, de cœur, de leitmotiv, d'Edouard Levé et même de l'ange bleu avec Jean-Romain Vespirini qui met en scène Faust, l'opéra de Gounod, ou comment faire basculer le fantastique 19e-iste dans l'exubérance des années 30. Lucille Como.
Jean-Romain Vespirini fait de Faust un opéra mystique et sensuel, ou comment le dépouiller par le haut et par le bas de son attirail bourgeois.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Tour. Ce soir, le sujet en est, Xavier ?
Un nouveau genre théâtral.
Ça tombe bien.
C'est vraiment le sujet.
Parfait. 19h30. Je n'avais même pas l'air d'en douter. Hein.
Non, c'est vrai. J'ai failli vous répondre, ça te regarde, mais ouais, comme ça vous regarde.
Oui, mais ça, c'est moi qui vous l'ai dit tout à l'heure
voilà.
Dans le studio.
Vous avez dicté quelques réponses.
Voilà, je ne peux pas quand même écrire tous vos dialogues non plus.
Non, mais vous écrivez déjà mes chroniques, c'est bon.
Très bien, merci Xavier. Plateau 19h35. Plateau répétition avec Stéphanie Chailloux pour un premier roman, L'homme incertain, un texte coupé en deux entre les monologues d'un père paysan défaillant et les comptines des enfants, avec à la clé l'autoportrait d'une écrivaine travaillée par la poésie, Lucille Como.
Comment faire de la fin des paysans le sujet d'une litanie poétique, loin de tout naturalisme et tout en gardant la tristesse essentielle.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre avec le son du jour. Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, c'était déjà celui d'hier. C'est un jour sans fin avec vous. Tous les jours, ça va être ça jusqu'à la fin de l'année.
Mais écoutez, c'est un double son du jour. C'est presque un dispositif, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un peu ça, double, puisque je l'ai déjà passé hier. Et parce que c'est une double chanson, c'est un montage de Blurred Lines de Pharrell Williams et Robin Thicke, et de Got to Give It Up de Marvin Gaye, 1977. Je vous rappelle qu'hier, le jury d'un tribunal de Los Angeles a estimé que Robin Thicke et Pharrell Williams avaient enfreint les droits d'auteur de Marvin Gaye pour son titre de 77. Il a donc accordé environ 4 millions de dollars de dommages et intérêts et quelques 3,5 millions de dollars au titre des revenus régénérés par Blurred Lines, puisque ça a été l'un des plus gros tubes de l'été 2013. Alors voilà, il se trouve que cette décision a sème la panique totalement dans l'industrie musicale à New York. Plusieurs grands noms de la musique, alors qu'on ne connaît pas forcément, puisque c'est les auteurs des chansons des grandes stars, ont pris position en contre. C'est un clou de plus dans le cercueil d'une industrie musicale qui déjà se meurt, assure le compositeur Greg Wells, qui a coécrit des titres notamment pour Adele ou Katy Perry. Ça confirme selon moi que la plupart des gens ordinaires, entendez donc les membres du jury, la musique sonne comme du chinois pour eux. Ça fait grimper la peur à un niveau maximal pour des gens qui font ce que Pharrell Williams et moi on fait pour gagner notre vie.
Tout de suite, on passe au dossier du jour, direction l'Italie, où deux touristes américaines de 21 et 25 ans ont été arrêtées dimanche pour avoir gravé leurs initiales sur un mur du Colisée à Rome. Une pratique plutôt courante, puisque 6 touristes ont été condamnés l'année dernière pour les mêmes faits. Une arrestation qui, en tout cas, relance le débat sur l'état des monuments en Italie, de plus en plus dégradé.
Tout à fait. Alors, la peine qu'encourent ces deux touristes sont très très lourdes. Des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros et de la prison avec sursis, c'est quand même lourd. Des peines qui sont volontairement lourdes et exemplaires. Parce que, il faut le dire, l'Italie n'a absolument pas les moyens de surveiller et d'entretenir ces innombrables monuments qui, inéluctablement, je savais que j'allais avoir du mal à le dire, se dégradent. Rosella Rea est responsable du Colisée à la surintendance des monuments de Rome et elle l'admet, elle manque cruellement de moyens.
Clairement, nous n'avons pas assez d'argent. En grande partie parce que le patrimoine historique de cette ville est tellement vaste, tellement fréquenté, qu'il est sujet à beaucoup d'usure. Et la protection des monuments est assurée par nos équipes qui sont extrêmement réduites. Il faut s'imaginer que le Colisée n'est gardé que par 5 à 6 gardiens, car cela fait des années que les embauches sont gelées. Donc il est évident que la plupart des actes de vandalisme nous échappent. Il y a bien la vidéosurveillance, mais c'est impossible au Colisée à cause de sa forme et de son architecture. Il faudrait tellement de caméras que ce serait hors de prix et inutile. On en est arrivé à un point où aujourd'hui on compte sur les volontaires.
Effectivement, plusieurs associations de volontaires se sont créées ces dernières années pour tenter de pallier les manques de l'État.
Tout à fait, pallier les manques de l'État, puisqu'il y a d'une part les entreprises privées qui ont décidé de prendre les choses en main. C'est le cas notamment pour le Colisée, dont les travaux pharaoniques sont financés par le patron de Tod's, la marque de chaussures. Et il y a, comme cela ne suffit pas, plusieurs citoyens comme Andrea qui ont créé des associations. Il a fondé à Milan Anti-Graffiti, dont le concept a été repris à Florence, à Bari, à Naples, à Venise. Lui, il veut changer la mentalité italienne où, dit-il, tout le monde se déresponsabilise. Alors, même s'il ne faut plus compter sur l'État, clairement, il le dit, il attend quand même de l'État qu'il joue un certain rôle.
Le but, c'est que tout le monde prenne conscience que la ville nous appartient. Pas à la ville, pas à l'État. Prenez une ville comme Naples, dont le centre historique est l'un des plus importants d'Europe et qui est abandonné à cause du manque de moyens. Comme pour le Colisée, l'UNESCO a menacé de retirer sa classification au patrimoine de l'humanité si rien ne bouge. D'un côté, les citoyens ne peuvent pas tout faire tout seuls, car certains bâtiments nécessitent un travail de restauration. De l'autre, l'État n'a pas d'argent pour agir. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Il faut que ces deux parties interagissent. Le ministère doit donner une impulsion, par exemple en formant des volontaires, pour que des non-professionnels puissent eux-mêmes restaurer.
Voilà, alors donc Anti-Graffiti qui organise toutes les semaines des opérations nettoyage des monuments. Pour en revenir au Colisée, la surintendance va mettre en place une loi pour empêcher les gens de s'approcher à plus de 2 mètres de l'extérieur du Colisée quand les travaux pharaoniques seront finis, donc pour s'assurer en fait qu'ils ne pourront pas aller graver leurs initiales, ce qu'ils font beaucoup pour l'intérieur. Il faudra toujours compter sur les volontaires.
Peut-être des réactions de la part de nos invités, Jean-Romain Vesperini.
Effectivement, c'est vrai que j'étais les 3 derniers jours à Milan. Et alors, c'est pas sur des monuments, mais c'est vrai que quand vous allez de l'aéroport au centre de Milan, vous traversez un grand boulevard comme ça, et quasiment sur tous les immeubles, il y a des graffitis. Comme ça, et on a vraiment la sensation, enfin ce que dit le monsieur sur...
Andrea, c'est lui.
Sur la responsabilisation des citoyens. C'est vrai qu'on a la sensation, quand on voit ça, que finalement, les Milanais... se désengagent eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est pas des graffitis, c'est pas de l'art, enfin, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est dommage.
Eh bien, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec Reporters sans frontières, qui a débloqué 9 sites à l'étranger.
Reporters RSF,
qui a débloqué 9 sites à l'étranger pour la journée contre la cybercensure. Donc, l'association a mis en place ce qu'on appelle des sites miroirs. C'est-à-dire, ils ont recréé les sites ailleurs pour que les internautes de certains pays dits ennemis d'Internet puissent avoir accès à des sites Internet. Je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a Granny.ru en Russie, Fergana News au Kazakhstan et en Ouzbékistan, The Tibet Post, évidemment, qui est interdit en Chine, Ablemos Press à Cuba, Goya News en Iran, ainsi que le Gulf Center for Human Rights aux Émirats Arabes Unis.
Ça marche comment, en fait, les sites miroirs? Je crois que je n'ai pas compris. Xavier?
En fait, en l'occurrence, ils les font héberger sur des grosses plateformes commerciales type Amazon. Et en fait, c'est très compliqué de bloquer un site qui est hébergé sur Amazon sans faire tomber Amazon dans le pays. Et comme les enjeux économiques sont absolument gigantesques, ils préfèrent ne pas risquer de faire tomber des gros sites commerciaux.
Un nouveau chef permanent à l'Opéra de Lyon.
Il s'appelle Daniele Rustioni, vous avez eu peur de le dire. C'est un chef italien âgé de 32 ans. Il prendra donc ses fonctions en septembre 2017 pour un mandat de 5 ans. Il succède à Kazushi Ono. Il dirigera au moins 2 productions lyriques par saison. Il avait déjà été nommé en 2009 chef associé au Covent Garden. À l'Opéra de Lyon, il a dirigé pour la première fois en 2014 Simon Boccanegra de Verdi.
La dernière,
c'est une petite histoire sympathique que je voulais vous raconter parce que je l'ai vécue hier. C'est une histoire de confession, de monde arabe, d'usurpation d'identité. Imaginez que vous devenez le prêtre quelques minutes, que vous êtes dans un confessionnal et que vous recevez les confessions, les peurs, les désirs d'un époux infidèle, d'une prostituée, de quelqu'un qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre, que tout cela ce sont des personnages issus du monde arabe. Eh bien, c'est une installation qui vient d'être mise en place par l'artiste dramaturge Mérienne Benissi. Ça se passe au Tarmac Scène francophone à Paris, dans le 20e. Ça dure jusqu'au 28 septembre. Alors, il y a des choses, 28 septembre, n'importe quoi, 28 mars, il y a des choses assez étranges, vous verrez. C'est très compliqué d'avoir une réaction quand quelqu'un vous demande ce qu'il faut faire après avoir taillé des pipes à des gens. Soit vous réagissez, soit vous réagissez pas. Mais c'est une expérience à tenter, dans tous les cas.
C'est ce que vous avez vécu hier ?
Ce que j'ai vécu hier, et croyez-moi,
pour
une fois...
Qu'est-ce que vous avez vécu précisément ?
Je ne menais pas large, figurez-vous. Vous êtes assis comme ça, puis il y a quelqu'un, un acteur, qui vient vous faire un récit, une confession. Il y a des gens qui réagissent absolument pas, il y a des gens qui donnent des conseils. Moi, en l'occurrence, j'étais assez bloquée, pour une fois.
Et donc, pour l'histoire des pipes, quel conseil vous avez donné ?
J'ai dit qu'il fallait s'accepter et aimer ses vices.
Voilà. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Viens. On se quitte, bons amis.
Pour bons amis, et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter Journal de la Culture sur le site de France Culture.
Pendant combien de jours?
Pendant 1000 jours.
1000 jours, on peut réécouter ce Journal de la Culture, surtout celui d'aujourd'hui.
Le rendez-vous.
Plateau fantastique avec vous, Jean-Romain Vesperini. Vous mettez en scène en ce moment Faust, l'opéra de Charles Gounod à l'Opéra Bastille à Paris. On entend un extrait derrière nous. C'est une nouvelle production qui emprunte néanmoins les décors à un précédent Faust qui avait été monté en 2011 par Jean-Louis Martinotti avec cette fois-ci Michel Plasson à la baguette. D'abord un mot bien sûr sur le livret, librement inspiré de la fable de Goethe. Faust est un vieux médecin. Lorsque le rideau se lève, il est sur le point de se suicider. Le poison est dans la coupe. Apparaît alors Méphistophélès, le diable, qui lui promet la jeunesse et l'amour. Faust redevient jeune homme, tombe amoureux de Marguerite, il la séduit, il l'abandonne et alors tous les personnages vont se déchirer dans un combat entre le bien et le mal, l'enfer et la rédemption. Gounod s'était éloigné du texte de Goethe en développant notamment les personnages secondaires et l'histoire d'amour avec des chœurs, beaucoup de chœurs et fournis. Comment est-ce qu'on dirige un chœur d'opéra quand on était un metteur en scène? Parce que là c'est un sacré défi, Jean-Romain Vesperini.
Oui, c'est un défi, je ne considère pas ça comme un défi, mais il faut aimer ça. C'est sûr que si on est un metteur en scène qui a du mal avec des ensembles, ils sont 90, dans l'acte 2, il y a donc les 90 artistes du chœur, il y a 30 danseurs en plus, donc ça fait quand même 120 personnes, sans compter les solistes. Donc je ne dirais pas que c'est un défi, mais c'est une passion.
Mais vous aimez ça?
Ah oui, moi j'adore ça.
Comment vous vous débrouillez avec cela? Parce que vous l'aviez déjà fait avec la Traviata, que vous aviez monté aussi.
Tout à fait. En fait, je crois qu'il faut, pour affronter, on va dire, un chœur, il faut pas le considérer comme une masse informe, mais au contraire, comme un ensemble d'individualités. Et je crois que c'est ça qui a plu dans ma relation entre le chœur et moi pendant les répétitions. C'est-à-dire, par exemple, le simple des choses toutes bêtes, mais vous connaissez le prénom, les noms des personnes. Donc, on avait très peu de temps pour faire cette...
Vous ne dites pas le cœur en place, par exemple.
Non, et je ne dis pas la dame là-bas avec le gilet rose, tu viens ici. Non, on dit des prénoms, des noms. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que c'est important. Je pense que de travailler dans le respect... Parce que c'est quand même 90 chanteurs, hein, donc ce sont des artistes qui ont une personnalité assez forte, et du coup il faut savoir les emmener avec soi dans son univers.
Quelle fonction vous leur donnez sur un plan dramaturgique? Parce qu'un chœur chez Gounod, ce n'est pas le même que chez Verdi.
Non, c'est sûr. Je dirais, quelle fonction on leur donne, c'est plutôt aussi en fonction de l'œuvre en fait. J'ai l'impression que chaque œuvre, effectivement, à sa définition du chœur. Là, chez Gounod, il a vraiment voulu avoir deux images, on va dire, dans l'acte 2 notamment. C'est ce que j'ai transposé dans un cabaret, hein, c'était à la base une kermesse. Il a voulu leur donner de la couleur. C'est le seul acte, l'acte 2, par exemple, où on a de la gaieté, de la joie de vivre, pour après mieux plonger dans le drame. Mais voilà, donc je pense qu'il a voulu leur donner une fonction de relief, de couleur. Voilà.
Faust est un opéra fantastique, au vrai sens du terme. Qu'est-ce que ça a déterminé dans votre mise en scène, Jean-Romain Vesperini?
Disons que l'aspect fantastique donne une conduite, vous donne une dramaturgie, un fil conducteur pour les personnages. C'est-à-dire, par exemple, quel est le rapport entre Faust et Méphistophélès? Est-ce qu'il est, est-ce qu'ils sont des amis, et on gère toutes leurs relations, tous leurs dialogues comme si c'était quelque chose de réaliste? Ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut assez insérer des choses un peu plus étranges? Donc, par exemple, dans la sérénade de Méphistophélès, où Faust est complètement passif, puisque c'est un peu comme dans Cyrano avec Christian, quand Cyrano parle pour Christian sous le balcon de Roxane. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf que là, on a une espèce d'hypnose de Faust. C'est comme si Méphistophélès était emmené dans une hypnose du personnage de Satan.
Lucille Comeau.
Alors la scénographie principalement, c'est un édifice monumental en métal blanc qui avait été créé par Johann Engels avec des coursives, des colonnades et des escaliers dont les modules peuvent glisser en diverses ouvertures. C'est une structure qui fait office d'abord de bibliothèque, puis de façade d'immeuble, d'église, de prison et de décor infernal dans l'acte final. Vous avez hérité de cet élément-là qui était déjà présent en 2011. C'est une production qui avait fait polémique à l'époque en 2011. Le chef d'orchestre, Michel Plasson, avait refusé de diriger l'orchestre à ce moment-là. Qu'est-ce qui ne lui convenait pas à lui?
Je crois que c'est pas les décors, c'était la façon dont était utilisée et exploitée la musique. C'est-à-dire que effectivement, le chœur, par exemple, on en parlait à l'instant, et ils étaient tous au fond, on les voyait pas, on les entendait pas, et donc je crois que la commande de Michel Plasson et de Stéphane Isner était de retrouver au moins la musique. Donc effectivement, j'ai hérité d'une scénographie. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu quand même, ça a été quand même très très élagué, parce que j'avais hérité aussi à l'époque de beaucoup beaucoup d'accessoires qui encombraient. Et en fait, ce qui gênait Michel Plasson, c'était le fait que, en fait, on n'arrivait plus à suivre ni l'histoire ni la musique.
Et avec vous, ça s'est passé comment? Parce que juste cette question, parce qu'on a un peu le sentiment parfois que la direction musicale vient ralentir la dynamique qui pourrait être celle de votre mise en scène. Parce que le tempo est assez lent.
Oui, c'est possible, effectivement. Il y a un peu de ça. Je crois que il y a un décalage entre Michel Plasson et moi. C'est effectivement concrètement l'âge. C'est-à-dire qu'il a 82 ans, j'en ai 33. Donc forcément, ça influe sur lui, sur ses tempi. Et moi, je me suis basé, puisque avant les répétitions, il fallait que j'arrive à la première répétition comme si j'avais déjà monté le spectacle. En fait, c'était un peu le challenge, enfin l'exercice de style. Et je me suis beaucoup basé sur son enregistrement qu'il a fait il y a quelques dizaines d'années, avec Van Damme notamment. Et donc effectivement, il y a une grosse différence de tempi. Bon, après, c'est à moi de travailler pour justement réussir à adapter la mise en scène. Mais en même temps, la rencontre était assez étonnante parce que c'est quand même Michel Plasson, c'est quand même un monstre sacré. Moi, je suis personne, enfin, personne ne me connaît. Et en même temps, c'était un peu Faust, en fait, parce que lui, il voulait revivre sa jeunesse et moi, je voulais avoir la science, quoi, l'expertise qu'il a, le talent qu'il a. Et donc, c'était. À un moment, je lui ai présenté des maquettes de costumes et puis il me disait « Ah, vous me faites revivre ma jeunesse ». Je lui ai dit « On a vraiment choisi le bon opéra
hein. ». Lucille.
Il y a eu un grand Faust dans l'histoire de l'Opéra de Paris. D'ailleurs, c'était déjà Michel Plasson qui le dirigeait. C'était celui de Jorge Lavelli. C'était en 1975. Il a été repris après pendant des années et des années. Vous y faites référence dans votre note. Qu'est-ce que vous devez à ce travail-là? Vous l'aviez vu?
Oui, je l'ai vu à l'Opéra à Bastille, je l'avais vu. Et puis après aussi, je l'ai revu en vidéo parce que Lavelli, c'est évidemment un grand maître du théâtre. Et donc, j'ai beaucoup à apprendre de ce genre de personnalité. Mais après, il faut que je trouve ma patte, quoi. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéressait, c'est sa façon dont il a tiré enlever, on va dire, la poussière qu'il pouvait y avoir sur ce type d'œuvre. Et je crois que ça a très bien marché, justement, avec Plasson.
Lavelli, lui, avait placé son récit dans le Paris haussmannien. Vous avez choisi de déplacer la fable dans les années 30, hein, ce dont témoignent notamment les costumes. Qu'est-ce qui, dans le texte, vous a inspiré ce contexte-là, celui des années folles, Jean-Romain Vespéani?
C'est pas dans le texte, c'est plutôt dans le thème. C'est-à-dire que Faust, pour moi, c'est comme vous disiez, un docteur, un savant qui est à la fin de sa vie et qui est entre deux époques. On parlait de l'ange bleu, il me faisait aussi penser au professeur Rath, parce que, en fait, j'ai l'impression que le docteur Faust, en fait, quand il dit qu'il veut avoir la jeunesse, c'est pas juste avoir un petit lifting, une cure de Botox, c'est aussi qu'il veut se réapproprier le temps, l'histoire dans lequel il vit. Et les années 30, je trouvais que c'était une période intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est après la Première Guerre mondiale, il y a tout un monde qui s'est effondré, et lui voit ce monde qui est en pleine évolution. On a la crise de 29, on a on va dire les totalitarismes, les extrémismes qui se développent énormément en Europe et dans le monde. Il y a aussi à l'acte 4, ce qui m'a emmené là-dedans, c'est le cœur des soldats, c'est-à-dire les cœurs des soldats reviennent de guerre. Ils disent, on dépose les armes, c'est la paix, on est très contents. Mais en fait, tout de suite après, ils disent, ben, on adore la guerre, on veut y retourner, etc. Donc finalement, je trouvais que les années 30, pour un homme de cet âge-là, pour moi, c'est pas un grabataire, hein, il a 75 ans, on va dire, 80 ans. Et en fait, il n'a plus les clés pour s'approprier son histoire. Et du coup, voilà, pour moi, les années 30, c'était un peu ça, quoi. C'était...
Lucille ?
Kuno est connu pour avoir vécu plusieurs crises mystiques. C'est quelque chose qui revenait régulièrement dans sa vie. Il y avait même des moments où il portait la soutane, il signait Abbé Gounod. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré, vous, dans votre mise en scène, Jean-Romain Vesperini ?
Non, c'est pas ça qui m'a inspiré. Non.
Stéphanie Chaillou, on parlera tout à l'heure de votre premier roman, donc romancière et poète. Est-ce que vous êtes familière de cet univers-là, l'opéra ?
Non, pas du tout. Non.
Pour quelle raison ? Il y a une réticence ou
Non, c'est plutôt par absence de pratique et puis j'ai pas comblé cette lacune, on va dire.
Ah bah il faut venir, Stéphanie.
je vais venir.
Donc il y a encore des places, c'est encore possible. Comme à chaque invité depuis le début de la saison, on vous a demandé, Jean-Romain Vesperini, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Il y en a un vivant qui t'aime bien plus que ton mari ne le pouvait.
Où est-il ?
Ici.
Comme on faisait ça dans le vide, en se disant on verra bien, si ça se trouve même on le jouera peut-être même pas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas à obtenir du rendement. Donc on se permettait toutes les folies possibles et inimaginables sans se dire qu'à un moment ça serait sanctionné par quoi que ce soit. Et c'est cette liberté de théâtre qu'on s'autorise plus jamais quand on fait les grands spectacles. On fait même tout le contraire, on réfléchit, on discute, on est sérieux et patatrac, on fait des conneries.
Patatrac, on fait des conneries. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
Alors, c'est La Rose et l'Âche, avec Ariel Garcia-Valdez. Et le metteur en scène qu'on entend après, c'est Georges Lavaudant.
Spectacle mythique de Lavaudant.
Spectacle mythique, voilà. C'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué.
Pour quelle raison ? À quel titre ?
Parce que... Je suis très ému de l'entendre, c'est marrant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu le spectacle, j'étais vraiment cloué. C'est vraiment une rencontre avec le théâtre. On est à la fois dans la... C'était un spectacle qui était assez court. Hein. Ça reprenait le Richard III, réadapté par Carmelo Bene, réadapté par Georges Lavaudant. Et on était pendant 1h10, 1h15, on était cloué à sa chaise. Et on était entre la performance et le théâtre. Et c'était des moments magiques. On avait des... Enfin, moi, j'avais des frissons partout pendant tout le spectacle. Et Georges Lavaudant, parce que c'est... le metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a énormément apporté. De même qu'avec Bondy et Stein. Mais disons que Lavaudant, j'étais vraiment un petit poussin quand il m'a pris sous son aile. Voilà.
Comment vous êtes arrivé dans cet univers-là, celui du théâtre et de la mise en scène ?
La mise en scène, alors c'est... ma mère était productrice de théâtre. Et du coup, et mon père est un féru et très amateur de théâtre. Donc j'allais tout le temps au théâtre. Et quand j'ai eu 13-14 ans, j'ai lu La Cantatrice Chauve et bon, je savais pas très bien, enfin, je devais avoir inconsciemment, je devais savoir ce qu'était la mise en scène, mais c'est à ce moment-là que, en lisant La Cantatrice Chauve, j'étais au lycée, j'ai dit, je vais prendre des copains, des copines, et puis on va mettre en scène ça. Et puis ça a commencé comme ça, puis je me suis jamais arrêté.
Lucille ?
Vous êtes entrée à la Guildhall School of Music and Drama à Londres après. Ouais. Vous étiez baryton, vous chantez toujours ?
Non, je chante plus parce que j'ai plus le temps de chanter. Et puis c'était vraiment la mise en scène. En fait, quand j'ai fait la Guildhall et quand j'ai fait l'école du Théâtre National de Chaillot, c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment d'école de mise en scène et que j'avais envie de voir de l'intérieur ce que ça donnait. Voilà. Mais mon métier, je l'ai appris avec les trois metteurs en scène dont je vous ai parlé, Stein, Bondy et Lavaudant.
Quel est le premier opéra sur lequel vous avez travaillé ?
Alors c'était La Fée Delta Premiata de Haydn. Et j'étais encore étudiant à la Schola Cantorum. Et voilà, c'était pareil, c'était très, on va dire, estudiantin, mais c'était une énergie incroyable. Ce que dit Jo sur, voilà, on s'en fichait parce qu'on avait énormément de liberté, ce qu'on a évidemment de moins en moins, en fait, petit à petit, sur les grands spectacles.
Lucille.
Je reviens à l'opéra. Vous dites que Faust est un opéra de la sensualité, que c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas plu à Wagner. Pourtant, vous avez assez peu développé les scènes d'amour entre Marguerite et Faust, alors que précisément, c'est assez explicite, l'amour consommé au début de l'acte 3, je crois. Vous, rien.
Disons, alors c'est la sensualité, pour moi, ce n'est pas juste l'amour. Hein. Et après, c'est peut-être, je suis assez pudique, en fait, peut-être. Alors, c'est, comme je suis jeune, je vais peut-être apprendre à me...
À déshabiller les comédiens.
À déshabiller les comédiens, les comédiennes, etc. Mais quand je parlais de sensualité, je parlais plus des rapports des uns aux autres. Il n'y a pas que, effectivement, que l'érotisme dans la sensualité. Il y a aussi le regard. On parlait du cœur, c'est les couleurs, c'est ce qu'on voit. Le toucher aussi entre Méphisto et Faust. Il me semble que je l'ai exploité, effectivement, peut-être dans l'inconscient général. La sensualité se concentre sur des choses d'amour. Mais pour moi, c'était d'autres, les autres tenants de la sensualité. Il n'y a que le goût qu'on n'a pas pu exploiter.
On a reçu aussi plusieurs metteurs en scène de théâtre, précisément, qui nous disent régulièrement qu'ils ne veulent absolument pas mettre en scène d'opéra parce qu'ils ne veulent pas diriger des chanteurs. Comment vous comprenez ça, puisque vous êtes de deux côtés?
Je le comprends très bien, parce que c'est deux métiers totalement différents. Donc, c'est comme, il y a des réalisateurs qui font des incursions à l'opéra, des plasticiens, mais c'est deux métiers, c'est des techniques différentes. Vous avez un chanteur en face de vous, c'est pas du tout la même mentalité, la même psychologie qu'un chanteur.
Qu'un acteur.
Un chanteur, lui, il arrive avec sa partition, il connaît sa musique, il n'y a pas de problème de texte, il n'y a pas de problème de musique. Il sait à quel moment il doit commencer, il sait à quel moment il doit finir. Un metteur en scène de théâtre, il a un texte sous les yeux et c'est lui qui doit inventer la partition. À quel moment je respire, à quel moment on s'arrête, à quel moment, combien de temps dure le silence, combien de temps est-ce que ces dialogues sont enchaînés rapidement, est-ce qu'ils ne sont pas enchaînés rapidement. À l'opéra, vous avez déjà tout un travail qui est fait.
Après, il y a le travail de comédie.
Après, ce que je veux dire, c'est dans la mentalité des interlocuteurs avec qui vous parlez. C'est-à-dire que vous allez construire avec un acteur tout ça, cette partition. Avec un chanteur, lui, il va arriver déjà avec cette partition-là. Donc, vous allez devoir construire autre chose, mais il va falloir le prendre sous un angle différent. Par exemple, un chanteur enregistre très très vite les informations qu'on lui donne, parce que il y a beaucoup moins de temps de répétition à l'opéra qu'au théâtre, donc vous pouvez pas à un moment, si vous parlez trop par exemple de dramaturgie, à un moment le chanteur vous allez le perdre. Donc un metteur en scène qui aime beaucoup parler, qui a envie d'approfondir les choses, de fouiller. Vous pouvez fouiller aussi avec un chanteur, mais ça sera autre chose. Et ça, effectivement, c'est deux choses très différentes, quoi.
Le rendez-vous, la chronique.
Jean-Romain Vasperini et Stéphanie Chaillot, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Au programme aujourd'hui, justement, un nouveau genre théâtral.
Oui, parce que cette semaine, on a assisté à quelques heures d'intervalle à deux exercices scéniques qui relèvent de ce qui est en passe de devenir donc un genre, alors théâtral, je ne sais pas, mais au moins communicationnel à part entière, j'ai nommé la keynote. Alors, je parle de l'intervention mardi soir de Tim Cook, PDG d'Apple, qui présentait l'Apple Watch, donc la montre connectée. Il présentait aussi le nouveau MacBook Air et puis d'autres trucs de geek relatifs à la santé. Et mercredi matin, c'était au tour de Xavier Niel, le PDG d'Iliad, maison mère de Free, qui présentait la nouvelle Freebox Mini. Alors, dans les deux cas, nous avons assisté donc à des keynotes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une keynote? D'abord, comme tous les genres, la keynote a une histoire et qui est très liée à Apple, car celui qui a popularisé ce genre, donc c'est Steve Jobs, le célèbre et décédé fondateur d'Apple. Il y a même une date, 1984, quand Jobs présenta au monde... C'est bravo le bruit de bouteille. Hein. Donc présenta au monde le Macintosh.
C'est qui est en train de se bourrer la gueule.
Ouais, exactement. Alors,
avec de l'eau.
Elle ne devrait pas, pour des raisons de santé. Enfin bon, avec son costume et son nœud papillon. C'était pas la première keynote de Jobs, mais ce fut l'inaugurale d'une longue histoire qui ne s'arrêta que quelques mois avant sa mort. Et il y a un site internet où on peut revoir, par ordre chronologique, toutes les keynotes de Jobs et où on observe que le genre s'est codifié au fil du temps. Par exemple, le célèbre polo à col roulé noir, qui a fait la marque de Jobs, est apparu vraisemblablement en 96, avant de devenir le costume de presque toutes les présentations, au point d'ailleurs que par la suite, toute déviation vestimentaire à la règle faisait l'objet de longues exégèses. Même chose avec les postures corporelles qui se sont affinées. D'abord, Jobs fut debout. Il fut assis, puis il fut debout, puis derrière un pupitre, puis mobile sur la scène. Ouais. Et puis quand il a maîtrisé l'occupation de l'espace, à nouveau, il s'est rassis par moments pour créer des effets de dramatisation intense. Bref, Steve Jobs a créé un genre, une sorte de norme à partir de laquelle toutes les keynotes qui ont lieu dans le monde s'évaluent. Et cette semaine, donc, en regardant Tim Cook et Xavier Niel, c'est évidemment à Jobs qu'on pensait comme à chaque fois. Donc, la keynote, c'est, comme vous le diriez, Laurent, un dispositif. Avec ce petit air, là, content de dire le mot dispositif. Un dispositif, donc, la présentation d'un produit tech par le PDG d'une boîte tech. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas, et pour plusieurs raisons d'ordre différent. D'abord, parce que c'est quand même quelque chose d'avoir réussi à transformer une annonce techno en une sorte de spectacle. Parce que pour faire rêver les foules, même les foules de journalistes tech, avec une Freebox 4K sous Android et 5 fois plus légère que la précédente, quand même, il faut le faire. Et c'est pas pour rien dans l'entrée progressive des technologies informatiques dans nos vies. Les expositions universelles ont eu un temps cette fonction, avec d'autres technologies, hein, l'électricité, la sidérurgie. Les keynotes ont sans doute joué un rôle équivalent avec les ordinateurs et autres outils numériques. Alors, bien sûr, parfois, ça tourne un peu au ridicule parce qu'il faut dramatiser. Alors, quand Tim Cook, par exemple, a raconté lundi soir ou mardi soir que l'Apple Watch va donner une nouvelle dimension au fait de lire l'heure, c'est sûr qu'on a eu un peu envie de se marrer. Mais quand même, le fait de jouer sur la surprise, parce que en faisant précéder tout ça de quelques fuites, ça va moins maîtriser, etc., des fausses annonces et tout, de réussir à transformer en glamour ces PDG de boîtes tech qui, quand même, sont moyennement excitants, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, parce que ces keynotes ont une fonction économique. Le cours de la bourse peut bouger, et il bouge d'ailleurs, en fonction de la réussite ou pas de la prestation et du fait qu'elle ait convaincu les personnes y assistant. Pas simplement dans la salle, bien sûr, parce que être dans la salle, ça peut confiner au privilège le plus extrême. Hein, mais tout le monde y assiste de par le monde, partout, les moyens qu'offre la technologie. Et même, parfois, le fait d'annoncer, le simple fait d'annoncer qu'il va y avoir une keynote, fait bouger les cours de la bourse, comme ce fut le cas lundi, quand Xavier Niel convoqua une keynote surprise, donc, à une keynote surprise, des journalistes triés sur le volet, ce qui entraîna la baisse des cours des quatre opérateurs mobiles français, dont Free, pour des raisons que je ne comprends pas.
Mais non, mais non, ça peut être tout le contraire.
Non, mais il y a un très bon article de la Tribune, vous pouvez comprendre tout ça si ça vous intéresse vraiment. Et quand ça touche Apple,
nous n'exagérons rien.
Fleuron de l'économie américaine, pourtant vous avez vraiment l'air passionné.
Non, mais c'est vrai, ça touche... me passionne. Mais de là à lire cet article de la Tribune pour savoir pourquoi la bourse a baissé, je ne sais pas trop.
Mais vous n'êtes pas curieux, vous,
c'est si, si, mais sur d'autres choses.
D'accord.
Et ouais. Vous l'avez lu?
Pas compris. Et quand ça touche Apple, fleuron de l'économie américaine et mondiale, évidemment, c'est à une toute autre échelle. Alors même, et c'est mon troisième point, et dernier point, rassurez-vous, qu'il est très difficile de savoir ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue la performance en elle-même, autre mot que vous adorez prononcer, performance? Le rôle, les applaudissements de l'assistance et des commentaires à la sortie, c'est essentiel. Mais bon, l'essentiel, c'est le fond, c'est quand même l'objet présenté ou la fonctionnalité présentée. Va-t-elle révolutionner les usages? Va-t-elle s'imposer partout? Et ce qui est beau, c'est que personne ne le sait à la sortie de la présentation. Savait-on, comme quand Jobs, de retour de chez Apple après quelques années d'absence, présentait l'iPod, que ce petit machin pour écouter de la musique allait entrer dans la plupart des poches et des foyers occidentaux et relancer Apple dont on prédisait la mort à l'époque? Et l'iPhone? Et l'iPad? Et puis, il y a tout ce qu'on a oublié dans les keynotes d'Apple, mais dans toutes les keynotes du monde entier, qui ont lieu partout et tout le temps, qui ont présenté et présentent tout le temps et partout des objets et fonctionnalités dont on ne se souvient plus, dont on n'a absolument rien à faire, contrant la mélancolie de ces ingénieurs qui ont la prétention admirable et tellement infantile de changer le monde avec des microprocesseurs, de la fibre optique et des bits.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Vous avez prononcé ce dernier mot avec, bien sûr, une espèce de coquinerie. Ça demandait un commentaire ?
Sans eux.
Très bien. Plateau Litanie, avec un nœud. Avec vous, Stéphanie Chailloux, d'abord poète, vous signez votre premier roman, L'Homme Incertain, aux éditions Alma. C'est un monologue à la première personne, le discours d'un paysan, un technicien agricole plus précisément, qui revient sur les raisons de son échec, sur la faillite de sa ferme, après la mise en place de la politique agricole commune fin des années 70. Le texte fonctionne par répétition, avec des motifs qui reviennent, les questions des enfants, la tentation du suicide, le regard que les autres portent sur soi, le sens de l'existence et la manière dont on prend en charge. Mais avant d'aller plus loin dans le texte, vous aviez d'abord écrit de la poésie, vous passez aujourd'hui au roman avec ce personnage de paysan. Quel sens cela prend pour vous de signer un premier roman sur cet univers-là? Parce que ce n'est pas anodin. Stéphanie Chailloux.
Le passage au roman m'a permis effectivement de déployer une pensée ou un contenu, de la déployer vraiment, du coup, de raconter une histoire, c'est-à-dire pas simplement d'évoquer un univers comme j'ai pu le faire précédemment dans mes ouvrages dits de poésie, mais là vraiment de construire un récit.
Mais pourquoi cet univers-là plus précisément?
Ah, parce que c'est parce que je le connais, parce que Au départ, en fait, je voulais faire un livre que je pensais l'appeler le livre des plaintes, et qui aurait rassemblé une multitude de paroles à la première personne. Donc j'ai commencé comme ça, et puis très vite, il y a le discours, celui du père, qui a émergé, et une fois qu'il a été là, il s'est développé, et c'est le seul que j'ai conservé. Je suis passée d'un pluriel à un personnage.
Alors, le roman ne documente pas du tout la crise paysanne qui touche la France depuis la fin des années 70. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de description systématique de la faillite en question, mais pour autant, la crise reste saisissante, le désespoir poignant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, qui a touché, je ne sais pas, votre milieu familial? En fait, qu'est-ce qui a déclenché un tel récit chez vous?
Bah effectivement, oui, le récit se nourrit d'expériences, de situations et de choses que j'ai vécues, donc que je connais, oui.
Qui ont été transmises.
Oui, oui.
Lucille.
C'est la fin des paysans, c'est un sujet qui a fourni de la matière à beaucoup de fictions, beaucoup au cinéma, à la télévision, beaucoup de documentaires. On a tous en tête les images, notamment des films de Raymond Depardon. Est-ce que ça, c'est une matière visuelle qui a pu vous inspirer?
Non, je suis vraiment partie de ce que je connaissais, des souvenirs qui étaient les miens et de, comment dire, de ce monde qui maintenant, qui était celui de mon enfance et qui, quand j'y pense, me paraît, ça me paraît extrêmement lointain. C'est assez étonnant.
Alors, vous avez conçu un dispositif, Xavier. C'est vous qui écrivez mes textes ou quoi? Un dispositif particulier pour ce roman. Il y a en fait deux statuts textuels avec des polices même différentes. Il y a le monologue du père paysan à la première personne et puis à la fin de chaque chapitre, j'appelle ça des chapitres par facilité, mais ce ne sont pas des chapitres. Vous avez placé en bas de page, comme des notes, des intermèdes qui sont autant de petites comptines et qui prennent en charge la parole des enfants. J'en ai une qui revient d'ailleurs au moins à 4 reprises. On avait une mère, on avait un père, on mangeait, il y avait une cuisine, un chien. On ne savait pas qu'il y avait un nord et un sud, des points cardinaux. Comment ce roman à deux vitesses et à plusieurs voix s'est mis en place ?
J'ai d'abord commencé par écrire le discours du père, et puis je cherchais au fil de la rédaction. Je savais que je voulais pas. J'ai d'ailleurs du mal en général à m'en tenir à un discours dans ce que je fais, enfin à une parole, je veux dire. Je savais que je voulais quelque chose de supplémentaire ou un écho, je voulais aussi trouver le moyen formel de donner des temps de respiration, parce que le monologue du père, on entre un peu dans un tunnel, et je voulais le ponctuer de
très répétitif, très lancinant, ouais. Ouais.
De manière à lui donner des temps de respiration. Au début, c'est passé par un travail sur la conjugaison, c'est-à-dire il y avait comme ça des reprises de certaines phrases du père qui disait je mettais à il comme s'il y avait un narrateur extérieur qui tout d'un coup ponctuait. Puis c'est un peu trop visible formellement. Du coup, quand j'ai trouvé parole des enfants, je me suis dit, c'est ça.
Lucille.
Vous dites que vous aimez restituer des paroles, et c'est manifeste dans ce que vous dites là. Ça veut dire que la littérature prend forcément la parole des autres en charge? Impossible d'écrire un jeu qui ne serait pas une voix autre?
Je comprends pas. Comment ça?
La littérature, ouais. Pour vous, ce serait vraiment le lieu d'une parole inconnue, d'une parole autre, totalement autre par rapport à vous-même. C'est un homme âgé, c'est un paysan.
Ah oui, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. En l'occurrence, j'ai écrit un texte qui n'était pas un roman, mais à la première personne, un léger défaut d'articulation, où là, c'était je. Et non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi de pouvoir donner la parole, dans le cas du père, de pouvoir donner la parole à un personnage ou à des individus qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas eu. C'est voilà.
Un roman incertain, donc le roman Un homme incertain fonctionne. Oui, mais le lapsus est plutôt assez intéressant parce que c'est un roman incertain, en fait, on va y revenir tout de suite. Fonctionne vraiment sur un procédé, c'est celui de la répétition à l'échelle de la phrase, à l'échelle de la page et même du récit tout entier. Est-ce que vous pouvez lire juste un passage qui en donne un petit peu une sorte d'exemple? Stéphanie Chailloux.
Oui. Je ne savais pas qu'on puisse être si seul, qu'on puisse être tellement si seul. Comme si tout avait disparu, tout, l'ensemble des choses, des êtres, des recours. Et il n'y a plus rien que soi, là, au beau milieu d'un espace quelconque. On ne sait même plus alors comment s'appellent les espaces. On pourrait dire champ, chemin, maison, ou champ, chemin, tracteur, mais ce n'est pas vrai. On n'est pas dans champ, chemin, maison, ni dans champ, chemin, tracteur. On n'est nulle part alors. Dans un espace réel, mais pourtant nulle part. Perdu au milieu de ce qui est, mais qu'on ne reconnaît plus, auquel on n'appartient plus. Perdu,
totalement seul, étranger. Non, je ne savais pas que ça puisse exister autant de pertes, de peurs, d'abandon. Je n'y étais pas préparée.
Avant le roman, Stéphanie Chaillou, il y a eu la poésie. Qu'est-ce que ce premier roman doit à votre pratique de la poésie, que l'on peut repérer quand même dans cette écriture encore aujourd'hui ?
Je pense que la parole des enfants s'inscrit vraiment dans un registre qu'on peut qualifier de poétique, avec l'espèce d'efficacité recherchée dans l'image ou dans la formule courte. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de raconter une histoire que de faire entendre une parole, de faire entendre une voix. Donc, en ce sens-là, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la poursuite ou de la continuité.
Xavier Delaporte.
Et qu'est-ce qu'il y a comme lien entre cette parole et l'environnement dans lequel elle s'enracine ou dont elle naît ? C'est-à-dire un rapport à la nature, un travail de la terre, enfin, c'est quoi le rapport entre ce type de parole et même peut-être la répétition ?
À la nature de la parole et le...
Et la nature de, voilà, c'est un paysan, c'est un cadre particulier ?
Oui, pour le coup, elle n'est pas, ça se vérifiera peut-être, mais il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire, je pense que j'écris comme ça, c'est-à-dire sur un autre sujet, ce sera, enfin, je pense, oui.
Ce sera quoi ?
La façon d'écrire avec cet usage de la reprise, c'est quelque chose qui pour l'instant continue d'être présent.
Qui était déjà présent d'ailleurs dans les premiers textes, dans les textes poétiques. Lucille.
Le jeune metteur en scène Julien Gosselin, qui est connu maintenant surtout pour sa mise en scène des particules élémentaires de Houellebecq, va adapter votre texte sur scène. Ce sera, je crois, en 2016 à Strasbourg. Qu'est-ce que ça dit du texte pour vous ? Comment vous comprenez cette démarche-là ?
D'abord, ça m'a fait très plaisir de quand il m'a fait part de son enthousiasme et de son désir de monter le texte. Ensuite, ça corrobore ce que je pensais être la dimension orale de ce texte. C'est-à-dire, c'est plus pour moi une écriture de la parole et de la voix qu'une écriture de l'écrit. Enfin, si tant est que cette distinction, qu'on puisse la faire aussi clairement. Mais ça souligne l'attention que je porte, mais qui c'est pas tant une décision qu'un état de fait, mais que je porte au rythme, pas aux sonorités, mais au rythme, au souffle. Voilà.
Vous écrivez à haute voix ?
Non.
Vous relisez à haute voix pour vérifier ?
Je ne relis pas à haute voix, mais ce que je fais, j'appelle ça, je déplie le texte, c'est-à-dire que le texte est écrit, je le retravaille, ensuite j'ai fait ça pour la première fois pour celui-ci. Je déploie phrase par phrase pour m'assurer de la. Comme si c'était un long poème en fait.
Ouais.
Pour m'assurer de la ponctuation. Et après, je remonte les éléments un à un.
Alors, ce n'est pas la première fois qu'on dit vos textes sur scène. Il existe la captation d'une lecture de Un léger défaut d'articulation avec de la musique. C'était une performance de Ryan Carnoa et Emma Morin. On en écoute un extrait.
Quand j'ai eu 18 ans, il ne s'est rien passé. Il y a des charges patronales, des habitants du Mozambique, des marchés de Noël.
Je m'en mal et rarement dans la durée. Des trompes d'éléphants, des postures victimaires, des maximes. Je me souviens du mouvement social de 1995, et de la neige qui tombait en abondance, de l'amande sauvage, des falbalas, des banjos. J'ai parfois à l'esprit des images de méduses brillantes et translucides qui flottent dans des eaux noires, des raviolis,
des émincés de volailles.
Des
générations sacrifiées, j'aime bien le mot ineptie. Et aussi,
c'était un texte que vous aviez écrit pour qu'il soit dit sur une scène ? On se travaille des voix.
Ça s'est fait après, non, je l'avais écrit pour qu'il existe. Et ensuite, effectivement, il se prêtait à la mise en scène. On a poursuivi d'ailleurs l'exercice, parce que j'ai continué à... On l'a présenté à Actoral en septembre dernier.
À Marseille.
Où là, pour le coup, les rôles sont inversés. C'est-à-dire c'est la voix de la comédienne qui est devenue Emmanuel Lafond qui est enregistrée et moi qui étais sur scène.
Lucille.
Le livre L'homme incertain se clôt avec un petit texte dont le titre est Autoportrait qui détaille votre démarche d'écrivain. C'est un manifeste en fait, sauf qu'il est placé à la fin. Pourquoi justement fallait-il que le lecteur ne le découvre qu'à la fin, ce texte-là ?
Ça, en l'occurrence, c'était les éditions Alma ont cette façon constante de présenter les choses.
Moi, en tant que lectrice, quand j'ai lu certains de leurs livres et que j'ai découvert la chose, je trouve ça pas mal de découvrir un peu plus de choses sur l'auteur après avoir lu le livre.
Autoportrait, ce n'est pas un titre innocent parce que c'est aussi le titre d'un texte du poète, performeur et plasticien Édouard Levé en 2005. Édouard Levé que vous citez d'ailleurs dans un poème précédent, dans un léger défaut d'articulation. La première phrase était « Je ne suis pas Édouard Levé ». Qu'est-ce que votre littérature lui doit ?
Quand j'ai lu Autoportrait d'Édouard Levé, j'ai trouvé son principe qui est pourtant, comment dire, qui est connu, un principe de Liszt, mais j'ai été frappée par l'efficacité, c'est-à-dire c'est très simple et ça fonctionnait extrêmement bien. Je me suis amusée ou lancée en tout cas dans le projet d'utiliser la même règle que j'ai ensuite modifié puisque j'ai ajouté une deuxième voix encore et de m'adonner à l'exercice de l'autoportrait. Enfin, ce qui était marrant, c'était aussi de mettre tous les éléments à plat, c'est-à-dire à même niveau des réflexions de nature totalement hétérogène, mais parler aussi bien de ce qu'on mange que de ce qu'on, que des gens qu'on aime, que de ses souvenirs, que de tout et n'importe quoi, mais au même niveau. Ça, c'était assez drôle.
Jean-Romain Vesperini, est-ce que ça vous inspire quelque chose, tout ce que vous venez d'entendre ?
Ah bah oui, en fait, j'étais en train de me dire qu'il faudrait que vous écriviez des livrets d'opéra. Non, mais c'est vrai qu'il y a une... Vous parlez de rythme, vous parlez de... C'est évidemment théâtral, ces répétitions. On dirait un peu du John Cage, hein, ce qu'on vient d'entendre. Il y a un côté... c'est un travail sur le rythme, enfin moi, que j'apprécie énormément. C'est sûr que ça me fait rebondir.
Lucille.
Comme tous les jours, on demande à nos invités d'apporter un son, de nous suggérer un son. Et vous, Stéphanie Chaillou, vous avez choisi ça. Mother bought a jacket for the rain. Chain. Lightning strikes an aeroplane in a dream. Sister talks about hello and goodbye. Identification ce son, Stéphanie Chaillou, est la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Alors c'est une chanson d'un groupe néerlandais qui s'appelle The Knits. Et je l'ai choisi parce que quand j'avais ce disque chez moi et quand j'ai travaillé sur ce livre, je sais pas, les voix des enfants, ça a tout de suite fait écho, cette chanson, parce qu'il y a à la fois ce côté mélodique qui est assez doux, et en même temps, quand on écoute les paroles, c'est un peu plus grinçant. Donc voilà, j'aimais bien ce décalage, le fait de rassembler les deux.
Quel est le premier texte que vous avez écrit, Stéphanie Chaillou ?
Ça s'appelle « Quelque chose se passe », et c'est un recueil de 6 textes courts.
Vous êtes écrivain à temps plein ?
Pas du tout. Non, non, non. Non, je travaille, donc j'écris le soir, le week-end, pendant mes vacances. Love is a suitcase filled with danger. Frightened, frightened
by the world. Vous dessinez aussi, en 2007, vous avez fait paraître un livre dont vous signiez à la fois les textes et les images, précisément là, parfois. À quoi ressemblaient ces dessins ?
C'était des encres que j'avais réalisées sur des feuilles, je sais pas comment ça s'appelle, les feuilles plastiques transparents, j'ai oublié le nom technique. Et bon, c'était abstrait, mais... J'aime bien dessiner des encres. Enfin, là, je le fais plus parce que j'ai plus le temps, mais parfois, dans les temps morts, entre deux livres, si je dois m'occuper, je dessine. Ouais.
Est-ce que les petites comptines qui ponctuent le monologue de l'homme incertain pourraient être comparées à des dessins ? Est-ce que le statut serait du même ordre ?
Non, je dirais plutôt que ce sont des refrains. Mais des refrains avec cette dimension de quelque chose qui insiste, c'est-à-dire qu'il y a le discours du père qui est là, qui se reconstruit une mémoire, et il y a cette mémoire des enfants qui, elle, est persistante et qui demeure. Le récit se nourrit d'expériences, de situations et de choses que j'ai vécues, donc que je connais.
Il ne faut pas le considérer comme une masse informe, mais au contraire comme un ensemble d'individualités.
Merci à nos invités Jean-Romain Vesperini, Faust, l'opéra de Gounod, ben c'est jusqu'au 28 mars à l'Opéra Bastille à Paris. Stéphanie Chaillou, L'Homme Incertain, premier roman apparu aux éditions de l'Alma, et vous serez au Salon du Livre à Paris le 20 mars prochain dans le cadre des rencontres de la SCAM. Ça c'était pour aujourd'hui, demain.
Le programme, c'est que je recevrai une personnalité un peu en lien avec l'actualité, avec son actualité, comme on dit, sur France Culture, avec plaisir.
Est-ce qu'il y aura des chroniques dans l'émission ou ce sera un entretien ?
Non, il n'y aura pas de chronique.
Non, demain, il n'y aura pas de chronique. Ce sera une émission du côté de chez Fred avec Frédéric Mitterrand que vous venez d'entendre et avec à ses côtés Umberto Pasti. La des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Spez, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Dofar Guérid et Pierrick Monsigny, et à la réalisation Thomas Beau.
Demain, pas de session, mais pas de chronique, mais une session.
Une session, le quatuor Cambini, Mozart, ce sera bien.
Ce sera Mozart ?
Non, ce sera bien.
Très bien. Ça a intérêt en tout cas.
Oui, pour ça.